Là, on est dans l'espace Habitat, Éco-Habitat, où il y a évidemment des stands de habitat partagé, habitat groupé, habitat participatif, selon le terme qu'on emploie aujourd'hui. On a aussi des animations d'enduit en terre, apprendre à faire son propre enduit pour sa propre maison. Il y a des stands pour apprendre à construire son propre éolienne chez soi.
Bonjour Hugo, membre d'Alternatiba Nantes, vient de nous présenter succinctement l'un des espaces du village des alternatives à la crise écologique, sociale et économique. À nous de découvrir quelques stands et de discuter au gré de notre inspiration.
Alors moi, je m'appelle Hubert Marin, donc je suis un formateur de l'association Tripalium. Donc dont l'objectif premier, c'est d'apprendre, de transmettre des savoirs, notamment pour construire des petites éoliennes.
Qu'est-ce qu'on entend par petites éoliennes ?
Alors, on a classé ça va être un peu long, mais on a classé les éoliennes en trois catégories. Il y a le petit éolien, le moyen éolien et le grand éolien. Alors, le petit éolien, il va jusqu'à 36 kW. Le moyen éolien, jusqu'à 250 kW à peu près. Et au-dessus, c'est du grand éolien. Donc, les grands parcs qu'on voit avec les grandes éoliennes, on est évidemment dans le grand éolien. Et donc, en dessous de 30 kW, des éoliennes qui sont à moins de 30 mètres de haut, avec des diamètres inférieurs à 8 mètres, et là, on est dans le petit éolien.
On en fait quoi ? On produit quoi ?
On en fait quoi ? Éventuellement, on peut effacer une partie des kilowattheures qu'on achète sur le réseau. Du coup, acheter un peu moins d'électricité nucléaire. C'est ce que j'ai fait chez moi, par exemple. J'ai une éolienne de 4,20 m de diamètre, autoconstruite, qui est installée sur un mât à 18 mètres et qui produit 1500 kWh par an. Voilà.
Et alors, ça suffit pour regarder sa télé ?
Alors, ça ne suffit pas parce que cette éolienne ne suffit pas parce que je consomme 3000 kWh. Donc, il y a plein de moments où je n'ai pas assez d'électricité avec l'éolienne. Donc, je prends celle du réseau quand j'en ai pas. Mon éolienne, elle a reçu les agréments du Consuel concernant la qualité des raccordements électriques. Et en fait, là, je fais ce qu'on appelle de l'autoconsommation, c'est-à-dire que l'éolienne, elle sert d'abord, aux utilisations que j'ai dans ma maison. Et éventuellement, donc, comme je disais tout à l'heure, quand l'éolienne ne produit pas assez, je prends ce qui me manque sur le réseau. Donc pour être très concret, si par exemple l'éolienne produit 200 watts et qu'au même instant dans ma maison je consomme 400 watts, moi, eh bien je vais prendre les 200 watts de l'éolienne et je vais aller en chercher 200 sur le réseau pour équilibrer et avoir le total.
Il me semblait que tout ce qu'on produisait était mis en commun.
Oui, alors dans l'esprit, donc initialement, EDF était le seul à être, à acheminer l'électricité, à distribuer l'électricité. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres opérateurs. Par rapport à ça, donc chez nous, on a le droit effectivement d'avoir un système de production d'énergie électrique. Par contre, où se pose un problème, c'est si le système il produit plus d'énergie électrique. Donc là, soit on la renvoie gratuitement sur le réseau, soit il faut avoir un contrat avec un des fournisseurs d'énergie électrique pour se faire racheter le surplus d'énergie. Moi, dans mon cas, tout à l'heure, je rappelle les chiffres que j'ai donnés. J'ai dit que mon éolienne produisait 1500 kWh. Et dans ces 1500 kWh, en fait, j'en ai 300 qui sont surplus avec l'éolienne que je renvoie gratuitement sur le réseau. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait de contrat. Mais si on regarde en fait ces 300 kWh, à quelle somme ça représente dans l'année, 300 kWh, si je les valorise à 10 centimes d'euros, ça fait 30 euros. Et donc, je n'ai pas voulu m'embêter à prendre un contrat d'achat de cette énergie par un opérateur d'électricité pour si peu d'argent. Donc en fait, quand l'éolienne elle produit plus de watts que n'en consomme ma maison, eh bien, cette énergie elle est réinjectée dans le réseau gratuitement. Et voilà, tout va bien comme ça.
On peut la décrire, cette éolienne ? C'est en bois, c'est ça ? C'est
oui.
Du bois ?
Et puis des barres métalliques qui tiennent la structure en bois. Il y a une espèce
de petites, comment on appelle ça, à l'arrière, comme un safran comme derrière un avion. Et puis il y a l'éolienne avec les trois pales devant, qui sont en bois, et là, la structure métallique. Tout ça fait à peu près 2 mètres de haut. Voilà, donc, non ?
Non, un peu moins.
Un peu moins, bon. Et puis, ouais, c'est sympa d'avoir une éolienne dans son jardin.
Ça fait girouette, quoi.
Il n'y a pas assez de vent, là. Il faut souffler, là, pour produire l'électricité.
Très clairement, aujourd'hui, oui, il faut souffler. Hein. On est dans, comment dire, dans des conditions appelées anticycloniques. Les éoliennes préfèrent notoirement les conditions cycloniques. Voilà. Parce qu'en général, il y a plus de vent. Ça veut dire qu'on a une dépression qui arrive, que nous envoient les îles Britanniques en général, et on profite d'un vent plus soutenu.
Et donc dans la région, ça fonctionne combien de jours par an ?
Ah, dans la région, je vous ai dit, on estime que, pour revenir au grand éolien dont on parlait tout à l'heure, donc une grande éolienne d'un champ éolien produit à peu près à sa puissance nominale pendant 3 mois de l'année. Mais ça veut dire que le reste du temps, elle produit, il y a des jours où il y a très peu de vent, etc. Donc elle va produire un petit peu moins, etc. Je suis là parce que chez moi, j'ai mis justement en place des énergies renouvelables. J'ai un chauffe-eau solaire, donc déjà chez moi depuis le mois de mars, mars-avril, j'ai de l'eau chaude sanitaire chez moi qu'avec mon chauffe-eau solaire. Je n'ai pas besoin de mettre en route ma chaudière. J'ai une centrale photovoltaïque qui produit 3500 kWh par an à peu près. Et j'ai donc l'éolienne dont je vous ai parlé qui produit 1500 kWh par an.
Et vous éclairez la bougie, non ?
Donc j'ai commencé la transition énergétique. Chez moi, j'ai déjà commencé à la mettre en marche. Elle n'est pas totale, il faut l'améliorer. Je ne m'éclaire pas la bougie. J'ai des lampes basse consommation. Et quand je vais changer, je pense que je mettrai là des lampes maintenant LED qui ont l'air d'être bien au point maintenant.
Je ne sais pas, qu'est-ce que vous consommez, si vous avez un frigo, une télé, votre environnement, parce que sinon, c'est pas parlant, en fait.
Ah oui, donc chez nous, moi, je ne suis pas un... Comment dire, je suis encore assez dans la société de consommation, donc j'ai un congélateur, voilà, j'ai les équipements que tout le monde a, donc lave-vaisselle, lave-linge, voilà. Voilà.
Donc ça, c'est plus parlant, parce que là, finalement...
Oui, oui, oui. Mais j'ai pas de chauffage électrique, par contre. Hein.
L'investissement pour cette éolienne ?
Alors, pour l'investissement, en fait, on parle... là, on voit une éolienne, mais on devrait plutôt parler d'installation éolienne, parce qu'une installation éolienne, ça comprend l'éolienne proprement dite, mais il faut un mât, souvent, qui vaut aussi cher, voire plus que l'éolienne. Et il faut un certain nombre d'équipements électriques, c'est-à-dire régulateurs, onduleurs, qui vont pouvoir permettre de mettre en forme et d'utiliser l'énergie qui a été produite par l'éolienne. Donc il y a tous ces éléments à prendre en compte. Et puis le prix, après, il va varier suivant la taille de l'éolienne, parce que tous les composants, les prix vont augmenter suivant la taille de l'éolienne. Bien entendu, ça va être un peu proportionnel. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que avec une éolienne autoconstruite, on arrive à diviser par deux le coût de l'installation éolienne.
On a un chiffre, non ?
Ben oui, j'ai un chiffre. Par exemple, chez moi, j'ai une installation éolienne qui a dû me coûter 8 à 9 000 euros. Et je pense que pour avoir la même installation sur le marché, j'aurais payé 16 ou 18 000 euros.
Si des personnes veulent se renseigner, il y a un site, il y a un numéro de téléphone.
Ben oui, il y a d'abord le site Tripalium, oui. Et puis autrement, on peut se renseigner auprès de formateurs comme moi pour avoir une opinion un tout petit peu éclairée sur le petit éolien, sachant que on n'est pas des commerçants, on va pas faire du démarchage chez les gens pour qu'ils achètent une éolienne.
Pourquoi s'y met pas tous ?
Parce que en fait, installer une petite éolienne, il faut quand même avoir de la place chez soi, il faut un grand terrain, ça peut gêner les voisins. Ça ne s'installe pas aussi facilement qu'un chauffe-eau solaire ou du photovoltaïque, c'est beaucoup plus contraignant, quoi. Déjà, les gens qui viennent me voir, je leur dis, mais vous avez un petit terrain, tout ça, vous avez des voisins juste à côté de chez vous, je dis, ça va peut-être être difficile, quoi.
Ça fait du bruit ?
Un petit peu, oui, un tout petit peu, oui. Donc, du coup, ça limite beaucoup d'endroits où... Par contre, Moi, je pense qu'il y a peut-être un avenir avec des écoquartiers, des choses comme ça. Plutôt que chacun mette un petit ventilateur au-dessus de sa maison, on crée un écoquartier tout de suite et dès le départ, on met une éolienne pour tout l'écoquartier. On met une éolienne de 10 ou 20 kW, quoi, à une hauteur qui sera bien, qui sera de 24 mètres, où il y aura vraiment du vent et qui va vraiment produire, etc. Et puis du coup, on est sur un projet éventuellement qui tient la route si tout le monde est d'accord dès le départ.
Eba, eba, yo. The music grows, it grows and makes me grow, makes me eba eba yo.
Qu'est-ce qui a motivé votre déplacement ? Un dimanche comme ça alors que tout le monde fait la sieste.
Le titre, hein, les alternatives à notre monde, hein, ça accroche. Je voulais venir voir qui organisait, prendre des infos, des adresses et tout ça. Ouais.
Vous êtes sensibilisé sur ces questions de règlement climatique. Parce que comme on ne se connaît pas, je ne sais pas, peut-être que vous êtes un expert, un spécialiste.
Non, pas du tout expert, non, mais ça m'intéresse. Depuis plusieurs années, oui. Comment faire autrement, produire autrement, économiser l'énergie, tout ça, les déplacements. Si, ça m'intéresse toujours. Et on essaye de faire à notre niveau le vélo, les AMAP, économie d'énergie de la maison, tout ça, on essaye. Mais il faut toujours essayer de se renseigner pour... essayer de changer nos modes de vie, nos façons de faire, quoi.
Qu'est-ce que vous faites concrètement, à part de vous renseigner, ce qui est déjà bien,
hein. Je me déplace en vélo, j'isole ma maison avec des matériaux sains, chauffe-eau solaire.
Concrètement, tous les bouchons de liège qu'on boit, toutes les bouteilles, on les donne à Christian. Qui boit du muscadet, avec ça, il va isoler sa maison.
C'est des conneries.
Il faut aussi que ça soit joyeux, des fois, tu vois. Je pense que là, si on s'y mettait tous, d'une part, on sauverait les viticulteurs qui veulent faire du bio. Premier geste, moi, citoyen, je m'engage à isoler ma maison avec les bouchons de liège des bouteilles de muscadet. Tu vois. Et deuxièmement, on isolerait ses maisons, tu vois.
Et alors là, je me mets en porte-à-faux avec le CSA, parce que c'est surtout pas avec modération, hein, parce qu'il en faut des bouchons.
C'est vrai. On avait une année, j'avais proposé ça aux jeunes chez moi. J'ai dit, écoutez, vous récupérez les bouchons, avec ça on isolera. Alors ils étaient partis comme des fous là-dessus. Et quand ils ont vu le temps qu'il fallait, le nombre de bouchons qu'il fallait, c'était énorme. Mais bon, c'est ce qui est intéressant ici, c'est ça, c'est ce petit côté personnel. C'est-à-dire qu'on a plein d'informations. Alors il y en a plein qui racontent des blagues, mais même ça, c'est pas mal. Et si j'avais 300 euros, alors l'autre... Si j'avais 300 euros, il écrit, je nourrirais mon hamster avec du maïs transgénique. Mais à côté de ça, il y a plein de petits trucs qui sont dits sur adhérer à NRCOP, sur des petits gestes sympas. Enfin. Et ça, c'est nouveau, parce que souvent, on est plutôt dans des assos qui proposent des gros trucs collectifs. Alors, il y a les gros trucs collectifs, mais on incite aussi chacun à faire du vélo, par exemple, et chercher ce qu'il peut faire. C'est pas avec ça qu'on va changer le monde, mais c'est des débuts.
Est-ce qu'on peut avoir la prétention de changer le monde ?
Quand on voit nos hommes politiques et au niveau international, quand ils se réunissent, et ce qu'il en ressort, il faut que ça vienne de la base. Hein. Il faut que chacun s'y mette pour changer, faire ce qu'il croit bon, et puis après essayer de faire pression sur les politiques. Mais c'est vrai qu'à regarder au niveau international, les grandes réunions, on est un peu pessimiste. Ouais. Bon. Alors des petites actions locales, ça nous rend un peu plus optimistes.
Mais c'est pas déjà plié.
C'est mal engagé, tout le monde dit que c'est urgent, faut prendre le virage dès maintenant, on n'a plus que 10 ans, oui bon.
Bah, 10 ans c'est pas grand chose. Hein.
Non, c'est pas grand chose, donc... Mais je sais pas, alors il y en a qui disent, il faut qu'on se tape dans le mur et puis après on changera de direction, mais même ça, je crois que... Non, les grandes décisions ne sont pas prises. Hein. Chacun gère dans son territoire et puis fait le minimum.
Reportage sur Alternatiba Nantes, le village des alternatives à la crise écologique, sociale et économique.
Quand on regarde les conséquences de l'activité humaine, hein, depuis 150 ans, on dit qu'on a une responsabilité, nous les hommes. Donc il y a les grands phénomènes sur des milliers d'années, mais il y a aussi ce que nous on a fait depuis 150 ans. Et puis peut-être que dans 50 ans, c'est plié. Enfin, on aurait été. Notre aventure aura duré 200 ans. Donc,
Justement, si c'est plié, pourquoi ne pas en profiter et de consommer un maximum?
Non, mais moi, je m'inquiète pas, parce que cet été...
On a des enfants, bon, et peut-être des petits-enfants, et donc, bon, voilà.
Cet été, on est allé en Galice. Ouais, il y a longtemps qu'on n'était pas sorti un peu de France. On est allé avec le bateau, là, qui va s'arrêter, là, parce que les aides vont s'arrêter. Et donc, là-bas, on a découvert que les Espagnols mangeaient des poulpes, et on a eu la chance de s'intéresser aux poulpes. On a vu que c'était un animal vachement sensible, super intelligent, beaucoup plus intelligent que le chimpanzé. Plus intelligent que l'homme, c'est sans doute pas très compliqué. Et c'est ça que je me dis, bon, il y a eu les dinosaures, il y a eu les hommes après, je pense que les poulpes, ils feront sans doute aussi bien.
Alors après, voilà, c'est un peu ce qu'on fait chacun de notre vie, quoi. Je crois qu'on est plus heureux à essayer de bâtir l'avenir, construire l'avenir, que de vivre un peu en disant, après moi le déluge, quoi. Replier sur soi-même, et puis, voilà, c'est...
Mais même, est-ce que même aujourd'hui, on a l'impression que vraiment... les gens sont un peu émancipés, libérés, à la limite. Pourquoi pas? Moi, je demande à voir les gens. Après moi, le déluge, j'en profite. Mais même ça, si on l'avait. Or, on ne l'a pas. En fait, on a beaucoup de... on voit beaucoup du stress, de la peur de perdre son boulot, la peur de ne pas payer sa retraite, la peur de ne pas payer les études des gamins. Donc là, au moins, déjà, ce qui est intéressant, les gens se rencontrent. Même sans l'optique de changer le monde, c'est... Comment on peut avoir un peu moins peur de la vie, moins peur des autres, et c'est ça, profiter de la vie. Après, on verra où ça nous mène, mais ça nous amènera, je pense, beaucoup plus loin avec des gens qui sont bien dans leur peau qu'avec des gens stressés et qui... Enfin, on n'a rien de bon avec ça, parce que c'est la course à... au bout, c'est que de la violence, finalement. Derrière la violence des marchés, c'est beaucoup de violence individuelle. Hein. Enfin, en venant en vélo... Il y a un gars qui m'a un peu repris parce que je l'avais doublé par la gauche. Et lui, il essayait de suivre une petite, une jeune, et justement, il attendait pour doubler. Alors, il m'a fait sentir que j'étais un peu pressé. Et puis après, du coup, on est resté, on a continué à rouler en vélo. Et finalement, au bout, on se disait ça, en voiture, c'est pas possible. En vélo, on a pu s'expliquer, finalement, et il a vu que j'étais pas non plus... Voilà, et puis il était marrant comme gars, il m'a dit « moi je démarre dans le vélo ». Alors il a vu mon casque et tout ça, il a dit « ah oui c'est vrai, vous aviez mis un casque plus haut ». Bon, ça c'est intéressant, je trouve. Voilà ce qui permet, ce que peuvent faire des choses comme ça.
En Rosalie, ce sera encore plus chouette.
Ah, ça pourrait être super sympa, mais il faudrait vraiment faire un choix là, sur les rues de Nantes, mais qu'à commencer peut-être. Là, on va peut-être aller voir le réalisateur, mais je ne sais pas si on va avoir le temps, qui a fait le film « Il est urgent de ralentir ». Enfin, c'est un peu dans le sens de ce que disait Christian, là.
J'ai eu le parti pris de vous dire que c'est fini dans 10 ans, mais moi, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous n'avez pas contesté. C'est ça qui m'intrigue. On ne sait pas, en fait, si dans 10 ans, c'est...
Ouais, ben...
Ce sont des projections, mais...
Oui, c'est des projections, mais enfin, bon, il y a Claude Allègre aussi qui disait ça, que fait confiance à la science et on peut continuer, mais bon, après, il y a quand même les experts internationaux hein, au niveau du climat qui font toujours les mêmes constats et qui disent que ça se confirme, la tendance est bien confirmée. Donc. Et puis on le voit, enfin, il y a quand même le réchauffement climatique, c'est constaté, c'est scientifique. Bon, donc voilà, il faut non, les énergies fossiles qui deviennent rares. Hein, bon,
le monde il y a un petit peu de gaz de schiste, donc ça va réveiller tout ça.
Mais voilà.
Ils ont vu le gaz de schiste, finalement, c'est pas la bonne solution. Ils ont compris. Bon.
Ouais, on voit bien, on racle les fonds de tiroir, quoi. Allez, encore un peu de gaz de schiste. Bon, mais ça va nous pousser encore 50 ans, 100 ans. Mais bon, il faut peut-être quand même, si on veut vivre bien avec 6 milliards, 7 milliards d'habitants, bon, ben, il faut vivre autrement, oui. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que nous, on est en France, on a un niveau de vie, mais il y a tous ceux qui, en Afrique... meurt de faim, hein, donc il faut vivre bien au niveau de la planète, quoi. Donc il faut changer, oui. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut changer.
Ce reportage a été enregistré à l'occasion du premier Alternatiba Nantes. Merci à Hugo, Hubert, Christian et Dominique pour leur libre participation.